Bonjour à toutes, bonjour à tous, c'est Cyrus, nous sommes le 12 mars 2017. Sur le festival Jeux et compagnie à Épinal et je suis en compagnie de Sophie. Bonjour Sophie.
Bonjour.
Alors est-ce que tu peux m'expliquer ton rôle sur ce festival ?
Alors je suis cette année chargée de communication pour le festival, mais auparavant j'étais bénévole multitâche sur les précédentes éditions.
Donc maintenant t'es bénévole monotâche alors, c'est ça ?
Dans l'idéal, ouais, ce serait ça.
Ok, chargé de communication, mais dis-moi, c'est parfait ça. Est-ce que tu peux nous communiquer du coup sur le festival ? Qu'est-ce que c'est ? Depuis quand ça existe déjà ce festival à Épinal ?
Alors, le festival Jeux et Scies d'Épinal existe depuis 2012, donc on en est à notre 6e édition maintenant. Notre objectif est de faire découvrir le monde du jeu sous toutes ses formes et de le faire partager à un maximum de personnes, sans distinction d'âge, sans distinction de préférence ludique, puisque on retrouve plusieurs espaces jeux. Donc on a les jeux de plateau, on a les jeux d'adresse, on a les jeux de rôle, on a les jeux du monde et jeux anciens, on a les jeux de figurines, on a les jeux de cartes à collectionner et les jeux traditionnels, genre le Scrabble ou les échecs.
Et tu dis jeux et scies ? Ça se dit jeux et scies ? C'est jeux et compagnie ?
Le logo est écrit jeux et scies, donc c'est vrai que par contraction, on commence à tous le dire, mais c'est bien jeu et compagnie, le nom en entier.
Ok, donc c'est jeu ici pour les intimes. Bon, moi, je suis pas encore très intime. C'est la première fois que je viens à ce festival. Et alors, je te confirme effectivement que ça me paraît être un pari plutôt réussi, parce qu'on voit vraiment un peu tout type de personnes ici. J'ai été assez frappé en entrant, parce que quand on rentre, en fait, on a tendance à être un petit peu orienté sur la droite, et on arrive directement dans l'espace enfant. Avec vraiment beaucoup de jeux pour enfants, alors du jeu et du jouet. Il y a aussi des plateformes, enfin des structures gonflables. Effectivement, il y a le jeu d'adresse et tout. On voit beaucoup de familles qui jouent là-bas. Ça me paraît être un festival vraiment très 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 familial.
Il est très familial parce qu'il est gratuit aussi. Donc en fait, on a deux types de publics qui se relayent dans la journée. On a le matin et le début d'après-midi, on a beaucoup de familles avec des enfants en bas âge. En milieu d'après-midi, on a des familles avec plutôt des ados. Et le soir, on a cette fois-ci les joueurs avertis qui viennent pour les soirées off.
Parce qu'effectivement, il y a des soirées off. Et donc là, ça finit à peu près à quelle heure ? Alors hier, t'as fait la fermeture, tu m'as dit.
Hier soir, on a commencé la fermeture vers 3h20, 3h30. Mais globalement, les gens sont très disciplinés et partent d'eux-mêmes quand ils voient 3h arriver.
Ok. Effectivement, alors un festival gratuit. Et en plus, ici on est dans le palais des congrès d'Épinal, et qui se trouve en fait dans une zone commerciale, si je dis pas de bêtises.
Oui, on est en plein milieu d'une zone commerciale, ce qui offre du coup beaucoup de places de parking, puisqu'on a déjà les 1500 places du centre des congrès, plus des hypermarchés qui sont juste à côté et nous proposent aussi, bien malgré eux, des places de stationnement.
Oh, je sais pas si c'est bien malgré eux, il y a encore de la place, hein, c'est pas... voilà quoi. Non, dans l'après-midi, tu trouves que ça commence à se remplir même sur les parkings du supermarché, c'est ça ?
Mais ça a déjà même commencé à cette heure-ci. Il y a plus de place sur le parking du centre des congrès. Et on a déjà commencé à envahir les deux grandes surfaces qui sont juste à côté.
Ouais, oui, c'est, non, c'était vrai hier, mais ce que je veux dire, c'est, je peux te rassurer, il restait quand même de la place sur les parkings des centres commerciaux d'à côté. Je pense qu'ils ont pas, on n'a pas viré des gens des centres commerciaux pour autant.
J'espère que non. De toute façon, la vocation est pas de les embêter non plus, hein.
Ok. Alors, comment vous arrivez à faire un festival gratuit?
Grâce au soutien de nos partenaires institutionnels, puisqu'on a par exemple un énorme soutien de la ville d'Épinal, qui nous met à disposition gratuitement le centre des congrès. On a aussi le soutien du conseil départemental et on a pas mal de partenariats avec d'autres structures. On a eu le soutien de la CAF pendant longtemps, on a eu des subventions, maintenant on a pas mal de partenaires privés, on a des mécènes, donc c'est la contrepartie en fait, la mise à disposition du centre des congrès de façon gratuite. En échange, on doit proposer une animation gratuite, ouverte à tous.
Et au niveau des associations qui sont motrices derrière et qui qui organise ce festival, qu'est-ce qu'on retrouve?
Au niveau de l'organisation, on retrouve l'association Place au Jeu, donc qui est porteuse du projet. Mais on est aussi bien accompagné dans notre projet par les associations Jeux des Pions ici de Thaon-les-Vosges, Galaxy Jeux d'Épinal et Piqué Piqué la Mérois de Chenilles-Ménil. Donc sans eux, il serait compliqué d'avoir assez d'animateurs pour pouvoir faire un tel festival accueillant autant de monde sur 3 jours.
Ok, donc c'est les associations qui fournissent des bénévoles en fait, c'est ça?
Oui, c'est ça. C'est uniquement des bénévoles qui sont présents dans les associations locales, on va dire, ou alors qui sont en tout cas sympathisants de ces associations-là. Après, sur le festival, on en retrouve d'autres. Donc, on a des associations qui n'ont pas au départ de vocation ludique, comme Amnesty International, par exemple, qui propose une sensibilisation sur le droit de l'homme. On a des associations qui vont proposer des expériences scientifiques, des parcours sensoriels. On a les ludothèques du réseau vosgien qui sont tous les ans partenaires et qui ont été porteuses du projet pendant ces 4 premières années. Et puis on a aussi toutes les autres associations ludiques présentes en tant qu'exposants, on va dire, qui ont un stand, qui sont de tout le grand quart nord-est.
Alors, si on essayait de dresser un petit peu les particularités de ce festival, alors moi j'en ai quelques-unes en tête, mais je les ai pas forcément toutes. Je reviendrai sur mon ressenti. Mais qu'est-ce que tu pourrais mettre un peu en avant sur ce festival?
Alors, ce que je pourrais mettre en avant, c'est les 12 000 visiteurs qui nous font confiance chaque année. Quand on analyse un petit peu leur ressenti, ce qu'ils apprécient particulièrement, c'est qu'il y ait de la place assise pour pouvoir jouer, ce qui n'est pas toujours le cas dans tous les festivals. On a la chance d'avoir une grande halle qui fait 6000 mètres carrés, ainsi que 2 salles annexes, une réservée aux jeux grandeur nature. On a du trollball et du quidditch aujourd'hui. Et une réservée au tournoi. Donc c'est vrai qu'il y a 3 espaces bien délimités, dont un pour les activités, on va dire, physiques, et l'autre pour les activités plus de réflexion. Et la grande halle nous propose vraiment un espace gigantesque pour pouvoir faire jouer tout le monde.
Ah ouais, je confirme, effectivement, l'espace c'est vraiment très grand. Pour autant, vous occupez tout l'espace, mais en fait, ce qui est intéressant, c'est que finalement, on se sent pas serré. C'est-à-dire que c'est sur les stands, on a plutôt de la place, on n'est pas trop serré, chaise contre chaise. Moi, je fais pas mal de festivals. Il y a des festivals sur lesquels, quand il faut se lever, en gros, enfin, se lever la table de derrière avec, c'est un peu compliqué. Là, il y a quand même de la place et les allées sont larges en plus. Donc, effectivement, il y a un potentiel, je pense, à même se resserrer un petit peu, peut-être, et puis effectivement, accueillir encore plus d'éditeurs, j'imagine.
On pourrait, mais c'est pas non plus la vocation, puisque on veut que ça reste quelque chose de convivial, de chaleureux, d'humain. Et on ne cherche pas à avoir une industrie du jeu, forcément. Donc, maintenant, on a fait le pari de limiter les inscriptions, que ce soit pour les auteurs, que ce soit pour les éditeurs en termes de place. On ne peut pas leur permettre d'avoir un stand gigantesque, parce qu'il faut un petit peu de place pour tout le monde quand même. Donc, maintenant, ça tourne, les gens sont habitués, les éditeurs reviennent d'année en année parce qu'ils sont aussi... Ils apprécient aussi ce contact un petit peu plus relax que dans d'autres festivals.
Ok, et on a des animateurs qui sont plutôt sympas. Hein. On a un accueil vraiment très souriant en arrivant avec la petite distribution du plan. Et puis bonjour, est-ce que vous voulez des informations? Enfin, on voit vraiment que les gens, ils ont envie d'accueillir tout ce public qui arrive. Je trouvais ça vraiment vraiment sympa. On retrouve un peu cette ambiance à Paris Ludique, tu trouves?
C'est vrai qu'à Paris Ludique, on est en été et ça se ressent en fait. Les gens sont pas encore en vacances, mais n'en sont pas loin. Et on voit aussi qu'ils sont heureux d'être là. Et c'est vrai qu'on a un peu la même ambiance ici. Tous les bénévoles, c'est une grande famille. On se retrouve chaque année avec la banane quand on prend possession des lieux le mardi ou le mercredi. On a l'impression de revenir à la maison. Et c'est pareil le lundi qu'on a fini de ranger. Ben c'est comme une fin d'année scolaire. On a une petite boule au ventre de partir parce qu'on a vécu 5 jours formidables et qu'on a juste envie d'être tout de suite à la prochaine édition. C'est vrai qu'il y a un aspect très famille dans notre équipe.
Ouais, bah ça se ressent de l'extérieur. Alors moi j'ai noté aussi deux trois autres petites particularités. J'ai vu qu'il y avait un stand de vente de jeux d'occasion. On trouve pas trop ça en général sur les. C'est une personne en particulier. Ça vient d'où?
Alors, les jeux d'occasion sont les jeux de nos bénévoles qui les proposent à la vente. On a déjà vu ça sur d'autres, dans d'autres lieux, notamment à Essen, où les boutiques de jeux d'occasion en fait fonctionnent du tonnerre. Et c'est vrai que c'est l'occasion de trouver aussi des petites pépites. Des jeux vintage, des premières éditions qu'on ne connaît plus aujourd'hui. Et ça marche toujours du tonnerre, puisque vendredi soir, quand ils ont installé la boutique, les piles faisaient plus de 2,20 m de haut. Elles ont bien baissé, puisque désormais, on peut voir les vendeurs de l'autre côté des piles.
Ouais, c'est vrai, t'as raison, c'est vrai que ça m'a rappelé un peu Essen, cette boutique. Alors, il y en a qu'une, mais sur les festivals français, ça se voit pas. Il y en a un à Paris Ludique, effectivement. Il y a un mec qui fait ça à Paris Ludique. Et puis, alors, je me disais, il y avait un espace pour les auteurs de proto aussi. Alors, pour le coup, il n'y a pas de concours d'organiser, mais il y a un espace proto, donc les auteurs peuvent, comment ça fonctionne? C'est pareil, ça vous sélectionnez des auteurs?
Alors, c'est sur inscription. On a un nombre de places limité et chaque auteur vient présenter ses prototypes. Donc, il n'y a pas de concours. C'est vraiment sur la base dans l'idée de faire tester le jeu à un grand public dans des bonnes conditions. Parce qu'on a aussi la chance d'avoir deux créateurs de jeux dans nos anciens bénévoles. Parce que maintenant, ils sont appelés à d'autres fonctions. Et du coup, on connaît la complexité de pouvoir développer un jeu et le faire découvrir et tester en conditions réelles. C'est pas toujours évident. Les festivals, parfois, demandent très cher. Donc, on propose un petit prix pour la réservation de la table et on inclut les repas dedans. Et les auteurs peuvent venir faire tester leur jeu autant de fois qu'ils le veulent dans le week-end. Ils ont une table de réservée.
Ok, alors les anciens bénévoles, alors je sais qu'il y avait Mathieu Lanvin, je crois, qui était beaucoup impliqué dans le festival, et j'avoue, je vois pas qui est le deuxième.
Nicolas Sato, l'auteur de Kenjin et Lutès, donc qui a été là dès le début du projet, hein, donc c'était deux, et ça reste deux piliers de notre communauté ludique locale.
Et donc qui ont été tous les deux débauchés par des éditeurs, parce que Mathieu Lanvin est chez Blorange, Nicolas Sato est depuis peu chez Libellude, si je dis pas de bêtises.
C'est exactement ça.
Alors j'ai noté aussi qu'il y avait une sacrée organisation au niveau des repas, de la buvette. Il y a du monde pour gérer ça et il y a pas pénurie. Ça a l'air de tourner, non, quand même, non?
Les premières années, on a eu, au contraire, pas de pénurie, on a eu un peu de gâchis. Donc c'est vrai que ça ne répondait pas à nos attentes en termes d'optimisation. Pour une question d'écologie et d'économie, le gâchis, ça ne nous ressemble pas. On essaye de tout optimiser. On a beaucoup de matériel de récup, par exemple, sur le festival. Et donc, maintenant, depuis 6 ans, c'est le même responsable qui gère la restauration. Et donc, c'est vrai que tout est analysé, organisé, pour que ça soit le plus facile en termes de flux, pour que les visiteurs aient pas longtemps à attendre, en termes de coûts, puisqu'on guette les bonnes affaires tout au long de l'année. Et afin que les visiteurs n'aient pas à payer trop cher non plus pour profiter de la restauration. Donc il faut savoir qu'on a deux pôles de restauration, on en a un pour le public et un pour les bénévoles. Et donc c'est deux flux de restauration différents gérés par la même équipe. Donc ils font un boulot formidable.
OK, bah écoute, je sais pas, ça avait l'air de bien tourner, hein. Et je trouve que c'est assez impressionnant parce que vous arrivez à avoir un choix assez varié, je trouve. C'est plutôt épatant pour un festival. Petite félicitation comme ça, ça mange pas de pain, c'est le cas de le dire. Ok, est-ce qu'il y a d'autres choses dont tu aimerais parler sur ce festival?
Oui, j'aimerais bien parler de la des nouveautés de cette année, puisque suite aux enquêtes de satisfaction qu'on a fait les années précédentes, il s'était avéré qu'on n'organisait pas assez de tournois. Et c'est vrai que du joueur qui vient d'un petit peu partout en France a envie de pouvoir s'inscrire et participer à des tournois pour affronter d'autres joueurs de façon massive, on va dire. Donc les éditeurs ont organisé beaucoup de tournois cette année. Donc merci à tous de l'avoir fait. Et on a aussi une zone duel. Donc ça, c'est notre nouveauté dont on est plutôt content cette année. Donc le principe, c'est que chaque visiteur peut s'inscrire pour affronter un autre visiteur dans un duel de jeu. Donc c'est que des jeux à deux. En fonction du niveau de son adversaire, il marque des points. Et en fonction des points, il monte en niveau. Et on a une récompense, un trophée qui a été créé par François Timon, donc qui est un artiste local. Qui présente un caméléon sur une main. Donc c'est aussi une façon de promouvoir l'artisanat local et nos artistes locaux qu'on fait avec grand plaisir.
Ah ok, c'est donc ça la statuette, j'allais dire de caméléon que j'ai trouvé super joli. Parce qu'en fait c'est la mascotte du festival, non, ce caméléon.
Oui, ce caméléon là, il fait partie de notre logo depuis le début. On voulait une figure sympathique, colorée, pleine de peps, et on a trouvé que le caméléon c'est sans doute l'animal qui représentait le mieux tout notre joie de vivre commune.
Alors effectivement, j'ai vu donc cet espace duel. En fait, on peut. Le principe, c'est d'affronter des personnes différentes potentiellement, c'est ça? Ouais. Et alors, ça tombe bien?
Il faudrait demander aux animateurs, mais au vu du nombre de tables, la zone n'a pas des amplis hier, donc je suppose oui que ça tourne très bien.
Alors, qu'est-ce qu'il y avait comme jeu, par exemple, sur ce duel?
Alors, on avait par exemple un jeu Aquatica, donc qui est un jeu d'Alexandre Droit, qui est aussi un auteur présent sur le festival cette année. On avait Yokai no Mori, Okia, j'ai vu Clask, et Blue Lion de Sylvain Duchesne, qui est aussi présent sur le festival. Et il y a toute une gamme de jeux qu'on peut demander aux animateurs, mais qui les font tourner régulièrement. En animation aussi sympathique, qu'on retrouve pas forcément sur tous les festivals, on a aussi un coin salon en fait qui propose des animations collectives où à intervalles réguliers on va proposer des parties de Time's Up, de Loup-Garou, animées par un animateur du festival, et donc qui peut se jouer en très grand nombre. Donc c'est aussi une fois de plus un moment sympathique à partager.
Dernier élément dont j'aurais aimé parler, c'est le stand. Alors je sais pas si c'est tenu par, j'imagine par une association qui propose du jeu libre. Donc on vient chercher un jeu. On peut éventuellement se le faire expliquer par un animateur et puis il roule quoi.
Donc c'est ce qu'on appelle notre espace tonnel. Effectivement, on a une tonnelle de jardin avec dessous des jeux en accès libre et on peut venir prendre la boîte, la regarder, se faire expliquer la règle, y jouer aussi longtemps qu'on veut, on la redépose. Donc c'est vraiment du jeu à volonté et c'est comme ça qu'on conçoit le festival en fait, c'est du jeu à volonté pour tout le monde à n'importe quel moment. Donc cet espace est co-animé par les 4 associations ludiques dont j'ai parlé au début, Place aux Jeux, Des Pions et Compagnie, Pique et Pique et Galaxy Jeux.
Ok, alors c'est assez rigolo le soir de voir cet espace du coup qui est particulièrement exploité du coup pour le off, où les gens viennent se servir, et on voit les tables se remplir petit à petit et faire des cercles concentriques autour, les tables s'étaler de plus en plus loin et prendre place sur les stands qui ont été laissés par les éditeurs dans la soirée. Et je trouvais qu'ils avaient une organisation vachement au poil parce que j'ai vu qu'ils avaient un tableau Excel avec la liste de tous les jeux et tous les animateurs, et il y a des petites croix qui disent oui, ce jeu-là, tu peux te le faire expliquer par machin ou par bidule. Ça, c'est quand même assez fort. Et on voit qu'il y a de l'organisation quand même en amont. Bon, et ben, bravo à eux. Est-ce que tu as d'autres choses éventuellement à ajouter?
Je l'ai abordé rapidement tout à l'heure, mais on a l'association Lorraine Quidditch qui est partenaire de notre festival pour la première fois cette année. Donc, il va proposer des démonstrations et des parties de Quidditch, donc le jeu qui est tiré d'Harry Potter, toute l'après-midi. Et c'est très sympa puisque on revient sur le thème qu'on voulait donner au départ, qui était le jeu dont vous êtes le héros. Donc on arrive à la fois à mêler une saga cinématographique avec le jeu comme on le conçoit. Et c'est très certainement ce qui fait l'essence de notre festival, c'est de créer du lien entre tous les partenaires ludiques, quels qu'ils soient.
Ok, super. Bah écoute, je te remercie beaucoup Sophie pour le temps que tu m'as accordé, pour toutes ces explications. On va inviter nos auditeurs à venir l'année prochaine sur Jeux et Compagnie, venir un peu tâter cette ambiance si particulière et si familiale. Hein. Vous pouvez venir en famille, il n'y a pas de souci, il y en a vraiment pour tous les goûts. Et puis le soir, vous pouvez laisser les enfants aller se coucher et puis revenir jouer au off. Allez, merci beaucoup Sophie. Bonne continuation.
Merci beaucoup d'être venu nous voir et à bientôt, j'espère.